Les informations avec Lisa Guyenne. Bonsoir Lisa.
Bonsoir à tous. Elle serait détenue depuis plusieurs semaines. Une chercheuse franco-iranienne de l'Institut d'études politiques de Paris a été arrêtée en Iran. Paris réclame des explications, mais Téhéran fait la sourde oreille. En Turquie, 3 ans jour pour jour après la tentative de coup d'État, la purge anti-rebelle se poursuit. Les Turcs, eux, sont divisés sur la question. C'était le premier industriel visé par le scandale de l'amiante en 1996. Le groupe Eternit bénéficie d'un non-lieu face aux accusations de plusieurs ex-salariés. Une immense déception pour les victimes. À la une également des commerçants parisiens qui veulent porter plainte contre l'État après les incidents du 14 juillet. Et puis le Rassemblement national, premier parti des militaires et des gendarmes. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais son arrestation pourrait remonter à 3 semaines déjà. L'anthropologue franco-iranienne Farida Adelkra est actuellement détenue en Iran. Et la France réclame de pouvoir la rencontrer sans délai, mais de son côté, le gouvernement iranien élude la question. Un de ses porte-parole affirme n'avoir aucune information. Je ne sais pas qui l'a arrêté, ni pour quelle raison, dit-il sur le site officiel du gouvernement. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
C'est le genre d'affaire qui est d'emblée compliqué parce qu'elle mélange politique, diplomatie et recherche. Ce que l'on sait, c'est que Farida Adelkha est chercheuse au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po. Elle a 60 ans, elle collabore à différentes revues scientifiques. Elle a déjà signé des tribunes dans le journal Le Monde, par exemple, au moment de la contestation verte. Spécialiste des réseaux religieux et du féminisme en Iran, elle travaillait ces derniers temps notamment sur les relations transfrontalières entre l'Iran et l'Afghanistan, au autour du thème de la femme. Les autorités françaises auraient été informées assez rapidement de son arrestation, mais auraient choisi de la rendre publique seulement maintenant. Entre-temps, elle se serait efforcée d'obtenir, en vain, des informations à la fois sur sa situation et sur ses conditions de détention. Mais voilà, l'affaire est compliquée pour la diplomatie française, car Farida Adelkha possède la double nationalité franco-iranienne, ce qui sous-entend une plus faible marge de négociation avec ce constat, en Iran, elle est avant tout iranienne.
L'Iran décidément au centre des tensions politiques. Cet après-midi, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a fait savoir que l'Iran pourrait revenir à la situation d'avant 2015, date de l'accord international sur son programme nucléaire. Une riposte face à la décision des États-Unis d'appliquer de nouvelles sanctions à Téhéran. Des chars et des bombardements dans les rues de la capitale. Plus de 250 civils tués. Il y a 3 ans, jour pour jour, la Turquie s'embrasait lors de la tentative de putsch contre le président Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, le 15 juillet est un jour férié. Des cérémonies sont prévues toute la journée. Et depuis 3 ans, les autorités mènent une lutte sans merci contre les fidèles présumés de Fethullah Gulen, le cerveau présumé du coup d'État. Arrestations massives, limogeage dans la fonction publique. La purge continue et divise la société turque, comme l'a constaté Anne Handlauer lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes du putsch ce lundi devant la mairie d'Istanbul.
Chaque année, Medineh participe aux commémorations de la tentative de coup d'État. Sous son voile bleu marine, elle dit approuver sans réserve les arrestations en lien avec le soulèvement. Plus de 30 000 personnes ont déjà été emprisonnées.
La lutte doit continuer. Ces traîtres à la patrie doivent être condamnés aux plus lourdes peines. Ils doivent payer le prix.
En plus des arrestations, plus de 130 000 fonctionnaires ont été limogés. Le pouvoir prétend nettoyer les institutions de tous les partisans de Fethullah Gulen, ce prédicateur accusé d'avoir ordonné le coup de force. Nour Alchevik estime lui aussi que les purges doivent continuer.
On parle d'un réseau qui s'est infiltré sournoisement pendant des années dans notre pays. Il serait naïf de penser qu'il a été éliminé et que certains ne sont pas tentés de recommencer. Nous devons être aussi intelligents qu'ils sont sournois.
Sedat, un retraité à l'épaisse moustache, agite énergiquement un drapeau turc. Comme la très grande majorité de ses compatriotes, il n'a aucun doute sur la responsabilité de Fethullah Gulen. Mais il accuse aussi le président Recep Tayyip Erdogan d'avoir fermé les yeux pendant des années sur l'infiltration des fidèles de l'imam dans la fonction publique.
Il y a les gulenistes, d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Les responsabilités politiques n'ont pas encore été établies. Ceux qui ont permis à cette tentative de coup d'État d'avoir lieu doivent être tenus responsables.
Ifakat, une opposante, va encore plus loin dans sa mise en cause du pouvoir.
Qui a fait ce putsch ? À mon avis, c'est un travail commun, les gulenistes d'un côté et ceux qui nous dirigent de l'autre. Je ne crois absolument pas que l'État soit en train d'être nettoyé.
3 ans après la tentative de coup d'État, la question des responsabilités continue donc de diviser la société turque.
On pensait venir progressivement à bout de la faim dans le monde. Eh bien, il n'en est rien. Après 10 ans de baisse continue, le nombre de personnes souffrant de la faim augmente à nouveau depuis 3 ans. Ils sont désormais 820 millions. Constat dramatique dressé par le Programme alimentaire mondial dans son dernier rapport sur la sécurité alimentaire. Décryptage Valérie Crova.
On est encore loin de l'objectif fin zéro censé être atteint en 2030. L'an dernier, une personne sur 9 était sous-alimentée de par le monde. La situation est particulièrement alarmante en Afrique, où la prévalence de la faim est repartie à la hausse. Elle touche aujourd'hui 20% de la population. La malnutrition ne cesse de gagner du terrain également en Asie, où plus de 12% de la population vit aujourd'hui en situation de sous-alimentation. Près d'un enfant sur 10 est concerné sur le continent asiatique et en Océanie. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la faim. Quel que soit le continent, les femmes en sont plus souvent victimes. Les plus grands écarts s'observent en Amérique latine. Cette année, le rapport sur la faim dans le monde met l'accent sur les crises financières et les tensions commerciales qui contribuent à aggraver les crises alimentaires. Ainsi, la faim progresse dans de nombreux pays où l'activité économique a ralenti ou s'est contractée. Là encore, c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand nombre de pays où l'augmentation de la sous-alimentation s'est produite en même temps que l'économie ralentissait. Viennent ensuite l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et le rapport d'alerter sur la dégradation de la conjoncture économique qui pourrait conduire à une progression de la pauvreté et des inégalités et risquerait d'entraver les efforts déployés pour venir à bout de la faim.
Valérie Crova, le virus Ebola de retour au Congo. Les autorités sanitaires confirment avoir pris en charge un prêtre atteint de la fièvre hémorragique dans la ville de Goma. Cette ville d'1 million d'habitants craint désormais une propagation rapide. L'an dernier, une épidémie s'était déclarée à 350 km de là. Plus de 2500 personnes avaient été infectées. 22 ans après son interdiction, l'amiante causerait encore chaque année 1100 nouveaux cas de cancer de la plèvre. Un scandale soulevé pour la première fois en 1996 lorsque les salariés avaient porté plainte contre leur employeur, le groupe Eternit. Plus de 20 ans après les faits, l'affaire connaît aujourd'hui un nouveau tournant. Des juges d'instruction parisiens prononcent un non-lieu pour les responsables d'Eternit. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Pas de suite pénale donc, la décision n'est pas inédite dans la liste des procès de l'amiante, mais elle est hautement symbolique Florence.
Oui. Ce n'est pas la première décision de non-lieu rendue dans un dossier de l'amiante. Les juges du pôle santé publique de Paris ont déjà conclu dans le même sens pour EDF, Saint-Gobain, les chantiers navals et Charbonnage de France. Mais le cas d'Eternit reste particulièrement symbolique. Il s'agissait du premier producteur français d'amiante ciment dans les années 90 et le premier visé par une plainte pour homicide et blessures involontaires par d'anciens salariés. 23 ans plus tard, les magistrats instructeurs justifient leur décision par deux arguments principaux. Aucune faute de nature pénale ne peut être imputée à des personnes physiques ou morales en lien avec la société, écrivent-ils. Par ailleurs, il est impossible de dater l'intoxication des plaignants. On ne peut donc pas déterminer quels étaient les responsables en poste et les réglementations en vigueur à cette date inconnue. Un argument que conteste l'association des victimes de l'amiante comme une erreur majeure d'interprétation des données scientifiques. Pour Lava, c'est l'exposition dans son entier qui contribue à la maladie. L'association compte faire appel de ce non-lieu. Elle a également lancé une autre initiative judiciaire. Ses avocats vont déposer en septembre une citation directe visant les responsables nationaux de l'amiante. Procédure exceptionnelle dans ce type de dossier particulièrement complexe, mais qui permettrait pour le millier de victimes qui va s'y associer de contourner ces décisions de non-lieu et d'organiser le procès pénal qu'elle réclame depuis des années.
Merci Florence Turm. À Paris, le vase a encore débordé hier pour les commerçants de la plus belle avenue du monde. Entre les gilets jaunes dans l'après-midi et certains supporters algériens dans la soirée, les Champs-Élysées ont été le théâtre d'affrontements et de dégradations. Des poubelles brûlées, des vélos et des trottinettes vandalisées, des heurts avec les forces de l'ordre. Un goût amer de déjà-vu pour les commerçants parisiens. Bonsoir Hélène Fromanti.
Bonsoir.
Certains envisagent aujourd'hui de porter plainte contre l'État.
Oui, c'est l'idée de Philippe Roussel, buraliste, avenue de Wagram, à deux pas des Champs-Élysées. La nuit dernière, sa boutique a été saccagée, rideaux de fer arrachés, vitrines brisées. La faute, selon lui, aux supporters de football. Pour ce commerçant, comme pour plusieurs de ses voisins, la journée d'hier, gilet jaune l'après-midi, plus victoire de l'Algérie le soir, a eu l'effet, vous le disiez, d'une goutte d'eau dans un vase déjà bien rempli, d'où ce projet de plainte contre l'État.
On va en arriver là parce qu'il y en a marre. c'est le ras-le-bol pour tout le monde, parce que quand même depuis les gilets jaunes, depuis il y a eu les black box, ils ont quand même cassé notre rue, avenue de Wagram, elle a quand même été énormément abîmée, les Champs-Élysées, tous les commerçants y ont eu le droit, l'Arc de Triomphe y a eu le droit, c'est inadmissible, c'est pour ça que je dis le ras-le-bol de tout ça, oui. Et si personne bouge, bah personne bougera. Faut au moins un qui bouge pour que on espère que ce gouvernement puisse bouger un peu. Parce que ça peut plus durer, c'est fini.
Ces commerçants sont soutenus par la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Auxerre, qui craint que ça dégénère de nouveau vendredi, après la finale de la CAN, l'Algérie contre le Sénégal. Alors, elle réclame l'interdiction de toute manifestation autour des Champs-Élysées.
Aujourd'hui, nous subissons, les Franciliens, les Parisiens et d'autres régions de France, les Français subissent depuis un certain temps ces exactions, ces scènes de violence, et ça, c'est devenu insupportable. Qu'est-ce que je demande ? C'est qu'on sécurise le périmètre. Et bien sûr, si on n'y arrive pas parce que on a des problèmes d'effectifs, eh bien, il faut prendre une solution. Comme pour l'arrêté préfectoral concernant les manifestations des Gilets jaunes. Donc, on interdit complètement le périmètre, donc Champs-Élysées et ses abords.
Reste à savoir si elle sera entendue. C'est au préfet de police de Paris de trancher sur la question.
Merci Hélène Fromanti. Difficile à première vue de trouver un point commun entre Gilets jaunes et militaires. Pourtant, ces deux camps pourraient bien se mettre d'accord dans les urnes. On sait déjà qu'une large partie des Gilets jaunes se sentent proches de l'extrême droite et du RN. Eh bien, il en serait de même du côté de la Grande Muette. C'est ce que montre une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, publiée aujourd'hui. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Les militaires voteraient plus que la moyenne des Français pour le RN, et ce phénomène s'est renforcé ces dernières années.
Oui, c'est une étude qui, pour essayer de déterminer s'il y a une spécificité du vote des militaires, s'est concentrée sur les petites communes qui abritent une garnison, par exemple à Mailly-le-Camp dans l'Aube, à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, ou à Sissonne dans l'Aisne, des communes où l'on sait qu'il y a une forte proportion de militaires dans la population, ou bien encore sur les bureaux de vote situés à proximité d'un camp militaire, comme par exemple près du camp de Satory à Versailles. Résultat, dans ces bureaux, le vote en faveur du Rassemblement National se situe assez nettement au-dessus de la moyenne. À Mailly-le-Camp ou à Sissonne, aux récentes élections européennes, le vote pour le parti de Marine Le Pen a dépassé les 50%, alors qu'au niveau du département, on était en dessous des 40%. Pour Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Institut IFOP, auteur de l'étude, ça s'explique notamment par une sensibilité particulière de cet électorat aux thématiques portées par le Rassemblement National.
C'est des corps sociaux qui sont marqués par un certain nombre de valeurs, fidélité à des traditions, la valeur de respect de la hiérarchie, de l'ordre, un très haut degré de patriotisme. Et puis ce sont aussi des populations qui, professionnellement, sont au contact quotidien avec l'insécurité, avec les violences urbaines, qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme, sur notre sol ou à l'étranger. Et donc ce sont autant de paramètres pour comprendre le tropisme ou l'attrait pour le Rassemblement National qui a fait de ces problématiques-là sa marque de fabrique et son fonds de commerce.
Ce qui est nouveau et ce que montre cette étude, c'est qu'il y a une augmentation, vous le disiez, du phénomène depuis quelques années. Ça a été le cas notamment entre 2012 et 2014, au moment où les socialistes sont arrivés au pouvoir avec François Hollande, et puis au lendemain des attentats terroristes de 2015. Plus récemment, aux européennes, on a constaté qu'une partie de l'électorat militaire qui votait jusqu'ici pour la droite républicaine s'est déportée vers le Rassemblement National. En revanche, il faut noter que s'il y a ce tropisme en faveur du RN, ce n'est pas un vote monolithique. Dans certaines communes à très forte concentration de militaires, par exemple, le vote en faveur d'Europe Écologie Les Verts a parfois dépassé les 10% et pour La République En Marche a dans certains cas frôlé les 20%.
Merci Stéphane Robert. Direction Avignon, pour finir avec la chronique quotidienne du festival par Arnaud Laporte. Et une fois n'est pas coutume, ce soir c'est France Culture qui est à l'honneur.
Dans cette chronique quotidienne dédiée au Festival d'Avignon, il ne s'agit pas d'ouvrir une page d'autopromo, mais de signaler la présence encore une fois très forte de France Culture dans le plus grand festival théâtral du monde. Toujours installé dans les jardins du Musée Calvé, le service des fictions de notre chaîne propose 9 rendez-vous et il y en aura pour tous les goûts. On ne listera pas ici toutes nos productions, mais on a quand même hâte d'entendre Laurent Poitrenaud lire du Thomas Bernard. Il s'agira de Mépris littéraire et ce sera en direct mercredi 17 à 20h sur France Culture. Un inédit attire également notre attention, Elles disent l'Odyssée, une pièce inédite de Jean-Luc Lagarce qui sera donnée en public le 20 juillet à 20h. Mais l'événement du jour, c'est ce soir à 20h aussi, en direct depuis Avignon. Un inédit encore, cette fois signé Wajdi Mouawad, La mort d'Achille, avec Amira Kazar, Adama Diop, Xavier Gallet, Jérôme Kircher et Sofiane Zermani. Sofiane Zermani qui fut l'année passée un magnifique Gatsby de Fitzgerald pour France Culture. et que les plus jeunes de nos auditrices et auditeurs connaissent mieux sous le nom de Fianso, son nom de rappeur. Comme pour Gatsby, Issam Krimi signe la partition musicale de cette production qu'il jouera en live, accompagné par la violoncelliste Angèle Legaza. Achille, donc, une figure qui plane sur cette édition 2019 du Festival d'Avignon et dont Wajdi Mouawad s'empare en la faisant résonner avec les drames contemporains pour se demander comment, après l'horreur de la guerre, les humains peuvent poursuivre leur chemin sous un ciel vide de tout espoir. Je ne vous promets pas que ce sera d'une folle gaieté, mais pour l'avoir vu en répétition, c'est d'une grande beauté.
Et à défaut d'être vide de tout espoir, le ciel, lui, est encore chargé ce soir, mais ça devrait s'arranger demain. Retour du soleil dans toute la France et des températures proches des normales de saison.